Est-ce que l'OTAN veut remplacer la CEDEAO en Afrique? Avec une perte d'influence énorme dans le Sahel et surtout au Mali, la France cherche du coup à renforcer une présence dans le golfe de Guinée auprès de Washington. Mais la Russie brise une volonté de monopole de cette région par les Occidentaux. Et depuis que le Cameroun, la Guinée équatoriale ont fait appel à la Russie, la Chine et l'Iran, il est clair que la donne a entièrement changé dans cette région. Mais la direction de l'alerte précoce de la CEDEAO donc collaborera avec l'OTAN sur le changement climatique, la lutte contre le terrorisme et la piraterie dans le golfe de Guinée, comme l'a annoncé ce mardi l'organisation sous-régionale. La délégation de l'OTAN a également été informée des initiatives de la commission de la CEDEAO dans la lutte contre le terrorisme et des initiatives pour freiner l'insécurité maritime. Le changement climatique est devenu un phénomène mondial qui préoccupe assez bien les organisations africaines comme la CEDEAO. Mais les autres fléaux abordés, à savoir la lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime dans le golfe de Guinée, sont aussi des mots qui font couramment objet de débats dans la sous-région ouest-africaine. Malgré son importance géopolitique, donc cette région, les États-Unis ont pris cette partie de l'Afrique trop à la légère, en sous-estimant encore une fois l'Afrique. Washington, par exemple, n'a alloué à la région donc 8% du maigre budget de 2 milliards de dollars alloués au commandement des États-Unis pour l'Afrique en 2020. Les États-Unis n'ont actuellement qu'une présence nominale dans le golfe de Guinée, selon certains médias. Par le passé, la France était la puissance étrangère dominante, mais comme dans le Sahara, les sables du golfe se déplacent et pas nécessairement en faveur des intérêts américains, ni même français d'ailleurs. De la République centrafricaine à la Guinée en passant par le Mali, on observe une évolution distincte et spectaculaire de la dépendance à l'égard du soutien militaire français. À sa place, la Russie, la Chine et l'Iran s'assurent rapidement des positions stratégiques dans la région. La Russie est devenue le partenaire militaire privilégié de la République centrafricaine et du Mali dans leur lutte contre le terrorisme. En mars 2022, la France a annoncé le retrait de ses troupes du Mali car ils n'avaient plus le choix, la première fois que le Mali sera sans troupes françaises depuis 1892. La présence militaire étrangère dominante au Mali est désormais assurée par la Russie. Ce pays est en passe de devenir l'option de soutien militaire préféré des gouvernements de la région, sapant ainsi les efforts des États-Unis pour promouvoir leur fameux état de droit et de pseudo-respect des droits de l'homme en Afrique subsaharienne. La Russie se concentre sur la protection des élites dirigeantes et des infrastructures critiques, et il était donc inévitable qu'un pays, notamment comme le Cameroun, n'emboîte le pas au Mali ou la Centrafrique. Le 12 avril 2022, le ministre camerounais de la Défense avait signé un accord de coopération militaire à Moscou avec son homologue russe. Et quelques jours plus tard, l'ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, Tibor Nagy, a tweeté « Je ne peux pas croire que le gouvernement camerounais, dans un timing incroyablement mauvais, ait signé un accord militaire avec la Russie au plus fort de l'agression en Ukraine ». Lors des votes de l'Assemblée générale des Nations unies condamnant l'opération militaire russe en Ukraine, le Cameroun, comme de nombreux pays africains, s'est abstenu de voter. Alors que l'Iran ou la Chine, notamment, n'ont pas encore établi une présence significative au Cameroun, il y a des spéculations selon lesquelles la marine chinoise travaille avec la Guinée équatoriale pour permettre la construction d'une base navale chinoise dans le port continental de Bata. Peu de détails sur le plan chinois sont actuellement connus, mais si cela s'avère vrai, une présence navale chinoise sur la côte ouest de l'Afrique, plaçant les navires de guerre à une distance de frappe facile des cibles sur la côte est des États-Unis, a des implications pour la sécurité nationale des États-Unis. La Chine a également fourni une formation et des équipements militaires au Cameroun apparemment donc pour l'utiliser dans ses opérations contre Boko Haram et contre les séparatistes anglophones à la solde de Washington. Outre le fait que la France, de son côté, avait déployé dans le cadre de l'opération Coram dans le golfe de Guinée depuis le 1er mars le patrouilleur de haute mer commandant Biraud, qui est arrivé en escale à Cotonou le vendredi 23 avril, a annoncé donc ce mercredi l'ambassade de France au Bénin. Mais malgré tout ce remue-ménage de la part des Occidentaux pour au final tenter de coloniser l'Afrique, ses eaux, ses ressources et son peuple sont toutes vouées à l'échec. Les États africains sont sur leur garde et leur seul but à eux, c'est de chasser les néocolons de leur continent. Au Cameroun, Washington relance le conflit anglophone en profitant du monopole des médias mainstream focalisés sur l'Ukraine. 4 militaires ont perdu la vie dans 2 attaques perpétrées par des groupes donc sécessionnistes actifs dans les régions du nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, zone en conflit depuis 5 ans. Mais lundi, un groupe terroriste séparatiste a attaqué à l'aide d'un engin explosif les militaires qui effectuaient une patrouille dans un village dans le département de l'Ebialem, comme l'a indiqué le préfet. Selon cette autorité, 2 militaires ont été mortellement atteints par l'explosion et dans le nord-ouest du pays, 2 autres militaires ont été tués ce lundi dans une autre attaque attribuée, donc toujours par les autorités, aux sécessionnistes. Dans la localité de Djakiri, département du Bouy, 2 militaires sont tombés dans une embuscade et ont été tués, a affirmé le maire. Donc Bouba Kibo, et selon plusieurs sources non officielles, les séparatistes à la solde de Washington ont aussi tué 3 civils lundi à Djakiri. Le nord-ouest et le sud-ouest, 2 régions anglophones parmi les 10 que compte le Cameroun, sont confrontées à une grave crise sécuritaire depuis fin 2016 qui a dégénéré en conflit armé. Un conflit, tout comme tout conflit en Afrique, passe donc inaperçu vu le monopole médiatique concernant le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Comme on a pu le constater en termes d'attention internationale, tous les conflits ne sont pas égaux et certains, comme la guerre de la Russie et de l'Ukraine, reçoivent donc la part du lion de la couverture médiatique mondiale et de l'engagement diplomatique. D'autres, malheureusement, sont ignorés par la grande majorité des experts en politiques étrangères, malgré que l'implication de l'Occident ne fait même pas de doute dans ces crises. La crise au Cameroun, par exemple, théâtre d'une des guerres les plus invisibles au monde depuis près de 6 ans, appartient à cette dernière catégorie. Cela dit, quand il s'agit de lancer une campagne de désinformation contre une armée camerounaise ou même africaine, là, ils sont tous présents et la couverture médiatique est impressionnante. Ce pays d'Afrique centrale de 26 millions d'habitants est en proie à une série de conflits allant des combats entre le gouvernement central et les séparatistes anglophones nourris par les États-Unis via les groupes terroristes basés au nord du pays voisin, le Nigeria, comme Daesh ou encore Boko Haram. Malgré les nombreuses avancées de l'armée camerounaise, les séparatistes ne sont toujours pas prêts à laisser le Cameroun en paix. Plus de 6000 personnes ont été tuées, près d'un million de personnes ont déjà été déplacées par les violences en cours dans le pays. La présence de Boko Haram dans le nord et les nombreuses menaces et pressions de la part de Washington ont finalement poussé le Cameroun à se tourner militairement parlant vers la Russie, ce qui a évidemment provoqué l'ire des États-Unis et ses alliés occidentaux, bien évidemment. Les États-Unis commencent à reconnaître l'ampleur du défi au Cameroun 6 ans après. Le mois dernier, le secrétaire du département de la sécurité intérieure a accordé un statut de protection temporaire aux Camerounais qui résidaient déjà aux États-Unis le 14 avril. Cette mesure, qui, selon le Center for American Progress, s'appliquerait à un maximum de 40 000 personnes et qui est prévu donc pour une période de 18 mois. Et bien qu'il s'agisse d'un premier pas dans cette direction, il faut faire davantage pour mettre fin à la violence avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Avant cela, on a souvent vu les États-Unis justement placer les Camerounais qui avaient fui ces conflits aux États-Unis dans un avion pour les renvoyer au Cameroun. Bref, le conflit anglophone pourrait très bien, s'il n'est pas maîtrisé, se transformer en une catastrophe de type rwandais qui nécessiterait donc une intervention extérieure pour empêcher un génocide. Et dans ces cas-là, les pays comme les États-Unis sont censés se coordonner avec les Nations Unies, l'Union africaine, les groupements régionaux et les voisins du Cameroun pour stopper net ces séparatistes. Mais évidemment, c'est le silence complet du côté de Washington et de ses alliés qui, au lieu de condamner les rebelles, les terroristes et les séparatistes, préfèrent donc la voie du silence. Et oui, les conflits armés, le terrorisme, le massacre de civils n'est visiblement pas important aux yeux des Occidentaux, ce qui fait que les pays comme le Cameroun réagissent rapidement et se tournent vers des partenaires sérieux et fidèles des pays du bloc de l'Est, comme la Russie, la Chine ou même encore l'Iran. Évidemment, ce qui fait peur donc aux Occidentaux, c'est bien une sécurisation des territoires africains grâce à la montée en puissance des armées donc nationales africaines, mais également donc avec l'aide donc des pays donc du bloc de l'Est comme la Russie, la Chine ou l'Iran. Car dans ces cas, elle montrerait que la présence occidentale en Afrique est inutile. Mais les Africains l'ont déjà très bien compris. Au Mali, les FAMA comblent largement la place des Occidentaux. L'Allemagne, tout comme la France d'ailleurs, n'avait pas le choix que d'annoncer son retrait du Mali et l'a indiqué par la même occasion, donc qu'elle mettait fin à sa mission de formation des FAMA après 9 ans dans le cadre de l'EUTM. Bamako a réagi en indiquant que l'armée malienne est tout à fait capable de combler ce vide, donc les Allemands, les Français et les Européens en général, n'ont pas à s'inquiéter pour le pays. Quelques 300 soldats allemands avaient jusqu'à présent été impliqués dans la formation de l'armée malienne, mais avec les différends entre le Mali et la France, les pays européens ont également pris la décision, évidemment, d'emboîter le pas à la France, donc par crainte. Avant les Allemands, donc l'Union européenne avait déjà annoncé son retrait de la mission en prétextant donc la fameuse fake news qui s'était propagée dans les médias mainstream sur le massacre dans le centre du Mali qui avait fait environ 300 morts de civils, donc imputés à l'armée malienne selon eux, alors qu'en réalité c'était plus de 200 terroristes à la solde de l'Occident qui ont été tués. La ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a profité de l'occasion pour citer les abus contre les civils et la présence de soldats russes comme principale raison de l'arrêt de leur participation à l'EUTM. Alors qu'en Centrafrique, la mission de formation de l'armée, donc via le cadre encore de l'EUTM, avait également mis fin donc à la formation de l'armée centrafricaine pour les mêmes prétextes. Dès que les Européens se sentent en danger parce que les armées nationales africaines prennent le dessus sur les rebelles ou les terroristes, ils prennent directement la poudre d'escampette. Cette décision des Allemands et des Européens n'avait pas été commentée par les autorités maliennes jusqu'à présent et dans un entretien, le directeur de l'information et des relations publiques de l'armée malienne, le colonel Souleymane Dembélé, a abordé le sujet et a affirmé que si les Européens partent, la Russie et même les FAMA combleront le vide. Sans oublier évidemment la montée en puissance de l'armée malienne et également que l'armée malienne est tout à fait autonome et qu'en réalité elle n'a pas besoin de formation venant de pays occidentaux qui n'ont jamais gagné face au terrorisme. Le colonel Dembélé avait également déclaré que « je vous dis qu'au niveau des forces armées maliennes, qu'ils soient officiers ou sous-officiers, environ 80% d'entre eux ont été formés en Russie depuis l'indépendance. Donc nous n'avons pas à trembler devant cette déclaration de l'EUTM. Pour tout ce qui concerne l'entraînement traditionnel, nous avons toujours eu des formateurs. Et l'armée malienne est une armée ancienne et elle est capable de mener différents entraînements de manière autonome », a déclaré le colonel Dembélé. La situation est également suivie de près au sein de la classe politique malienne. Président donc du parti Union pour la sauvegarde de la République et ancien directeur de la communication du ministère de la Défense au Mali, Nouhoum Togo, dit regretter les sanctions imposées à Bamako. Tout ce qui dit donc la France, les autres s'accordent à le suivre aujourd'hui. Le Mali est dans une situation très difficile où nous pensons avoir besoin de l'aide de la communauté internationale pour empêcher le pays de sombrer, explique-t-il. Depuis combien d'années l'EUTM forme-t-elle des militaires? Mais sur le terrain, nous avons perdu tous ceux qui ont été formés, ce qui fait qu'il y a des problèmes au sein de la formation elle-même. C'est pourquoi nous avons proposé qu'au Mali, nous devons adapter la formation avec des cadres maliens, avec des spécialistes maliens, pour qu'on puisse relever le défi. Mais s'ils disent qu'ils veulent partir, nous sommes désolés, mais nous sommes obligés d'en prendre note et le Mali continuera son travail de formation interne, assure l'homme politique malien. En Centrafrique, c'était la même histoire. L'EUTM formait des soldats centrafricains et avec la présence également des troupes militaires françaises dans le pays, l'armée centrafricaine a été complètement décimée. Encore une fois, depuis le retrait des militaires français et l'arrêt de cette formation bidonne à l'européenne, l'armée centrafricaine a de nouveau été mise sur pied et avec l'aide de l'allié russe et même rwandais et aussi du matériel donc militaire offert par la Russie, les FACA ont repoussé les groupes rebelles du territoire centrafricain. Ce qui fait que la formation de l'EUTM ne sert qu'aux armées européennes, qui n'ont jamais dû faire face au véritable terrorisme. Cela dit, l'Union européenne avait annoncé également cette semaine vouloir faire son possible, en tout cas du côté politique, pour ne pas être obligé de quitter le Mali. Le patron de l'Union européenne avait déclaré dans une conférence de presse à Bamako vouloir même fournir des armes et du matériel à l'armée malienne. Mais évidemment, il est trop tard. Donc c'était à l'époque où les groupes terroristes massacraient des villages tout entiers qu'il fallait penser à cela. Mais le monde occidental a préféré laisser faire les terroristes en Afrique et prétendre vouloir maintenant secourir l'Ukraine en fournissant pour des milliards de dollars d'armes à un régime fasciste qui bombarde les Ukrainiens dans l'Est depuis 2014, juste pour que Kiev puisse tenir tête à l'opération militaire russe. Mais même là, les Européens ne sont pas capables d'assurer, ce qui montre encore une fois que les Maliens n'ont rien à regretter du départ des Occidentaux de leur territoire. Bien au contraire, ils attendaient cela depuis des années.
Le Nigeria héberge 24% des projets pétroliers et gaziers qui seront lancés en Afrique d'ici 2026. En dépit des difficultés auxquelles fait face l'industrie pétrolière locale, les autorités nigérianes veulent jouer un rôle plus significatif pour améliorer les performances du secteur pétrolier. Un rapport publié par la Société britannique d'analyse de données et de conseil Global Data indique que le Nigeria abrite 109 projets pétroliers et gaziers qui seront opérationnels entre 2022 et 2026. Un chiffre qui représente un peu plus de 24% des projets pétro-gaziers qui seront lancés en Afrique sur la période. Le Nigeria investit principalement dans des projets de production, de stockage et de raffinage de pétrole et de gaz au cours des 5 prochaines années, a déclaré Teja Papupula, analyste en hydrocarbures chez Global Data. Le port de Kribi veut construire sa propre centrale thermique d'une puissance de 80 MW. Patrice Mellom, le directeur général du port autonome de Kribi, situé dans le sud du Cameroun, vient de lancer un appel d'offres international pour la réalisation de la mission d'assistance à la structuration et la mise en œuvre du projet d'implantation d'une centrale thermique de 80 MW sur ses installations portuaires. Le consultant devra élaborer un dossier de consultation à utiliser dans le cadre du processus de sélection des partenaires privés et les documents contractuels envisagés dans le cadre du projet, notamment le contrat d'achat d'énergie. Le délai d'exécution des prestations est de 8 mois maximum, dont 4 pour la réalisation de la phase de structuration du projet et 4 mois pour l'assistance à la sélection du partenaire privé. Le coût prévisionnel de l'ensemble de ces prestations est de 120 millions de francs CFA. Le port autonome de Kribi projette ainsi de produire sa propre énergie pour être indépendant, car jusqu'ici c'est la centrale thermique contrôlée par Globec qui alimente la zone de Kribi. En Tanzanie, la société Evolution Energy trouve un acheteur chinois pour sa future production de graphite à Shilalo. Le graphite est l'une des plus grandes richesses du sous-sol tanzanien. Evolution Energy veut profiter de la demande grandissante pour concrétiser le potentiel de son projet Shilalo, qui nécessite un investissement initial de 87,4 millions de dollars. La compagnie minière Evolution Energy a conclu un accord avec le chinois Yishang Zesheng Graphite pour écouler une partie de la production que livrera sa future mine de graphite Shilalo en Tanzanie. Pour rappel, selon les résultats de l'étude de faisabilité définitive publiée en janvier 2020, Shilalo a la capacité de livrer en moyenne 50 000 tonnes de concentré de graphite par an sur une durée de vie de 18 ans. Une mise à jour de ces données est d'ailleurs attendue dans les prochains mois. Un projet d'infrastructure soutenu par la Chine renforce le statut de centre logistique de la Namibie. La Chine continue à contribuer au développement des infrastructures en Namibie au moyen de divers projets de construction, dont le dernier en date est la modernisation de la route qui relie Windhoek à l'aéroport international OCA Kutako. Ce projet, pour lequel une cérémonie d'inauguration des travaux a été organisée lundi, s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour moderniser les grands axes régionaux de la Namibie. Il comprendra notamment la construction d'une autoroute à deux voies de 21,3 km de long, de trois échangeurs et de deux ponts, a déclaré le ministre namibien des Travaux publics et des Transports, John Muturva, lors de la cérémonie. Financé par le gouvernement chinois, le chantier devrait durer 36 mois, a-t-il déclaré, tout en remerciant la Chine pour son soutien.